Bonjour et bienvenue tout le monde en ce lundi 12 novembre à l'émission Les Voix de service. Il y en a plusieurs qui vont être jaloux, je suis entouré de trois hommes ce matin. Trois hommes dont un nouveau, mais je vais commencer par le premier qui est à ma droite, Serge Hamelin.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, ça va très bien. De quoi allez-vous nous parler ce matin?
Ah ben, êtes-vous amateur de café?
Ben oui, c'est sûr. Alors, surtout quand la cafetière fonctionne.
Oui. Alors, je vais vous parler de cafetière. C'est
merci,
beau?
Oui. Good. Et bienvenue Jean-Charles.
Oui, allô.
Et de quoi nous parlez-vous dans la première partie de l'émission?
Ben, je vais vous lire un texte d'Alexandre Schild, Dominique Champagne, Mel Climat à l'heure du jour de François Legault.
Ben merci. Et Roger Roy.
Paysage et visage du simple soldat pendant la Première Guerre mondiale.
Ah, c'est
soldat canadien-français.
Et il y a beaucoup de monde en vacances aujourd'hui parce que c'était tranquille sur les routes. Pour ma part, je vous parlerai d'un trou. Je vous dis pas lequel. Alors, Roger.
Alors, j'y vais de ce texte qui est signé par Jean-François Nadeau. Ça paraît dans Le Devoir des 10 et 11 novembre. Paysage et visage du simple soldat. Plus de 600 000 Canadiens se retrouvèrent sous les drapeaux de l'Empire britannique entre 1914 et 1918. Environ 60 000 n'en revinrent pas. Les témoignages directs des soldats canadiens-français de la Première Guerre mondiale sont rares, très rares. Gens de peu, plongés au milieu de conditions insoutenables pour des motifs qui échappent le plus souvent à l'entendement, ils ne leur venaient pas à l'idée, au milieu de leur enfer, de coucher par écrit des souvenirs qu'ils ne demandaient à l'avance qu'à oublier au plus vite. Pour échapper à leur enfer au beau milieu de la guerre, l'humour devint parfois une arme. La plaisanterie sur un ton badin se trouve chez le soldat qui cherche à supporter le difficile. Mais on trouve aussi chez les soldats, toujours sous le couvert commode de l'humour, des critiques acérées de leurs conditions, explique Bernard Andrès, qui est professeur émérite à l'UQAM. Le professeur Andrès vient de faire paraître l'humour des poilus canadiens-français de la Grande Guerre, des écrits de soldats, 7, sans compter les illustrations tirées des livres et des journaux d'époque. Il a tiré les meilleures pointes lancées contre les officiers et les sous-officiers. Par moments, dit-il, ça frôlait l'insubordination. Si on en juge par leurs écrits, ces soldats ont été l'objet de mesures injustes que leur humour montre du doigt. Sans remettre en cause l'armée, ces soldats canadiens-français dénoncent une structure militaire britannique qui n'est pas propre à assurer leur inclusion dans un registre de commandement où ils se sentiraient, à tout le moins, dûment représentés. Pour plusieurs engagés canadiens-français, il est impossible de se battre pour l'Empire britannique. C'est ainsi qu'on trouvera au Québec un fort mouvement contre la conscription obligatoire. Le sentiment qui conduit nombre de Canadiens français à la guerre, sous l'uniforme canadien ou autre, n'en devient que plus intéressant. L'élan pour l'Empire n'était certainement pas du même ordre qu'au Canada anglais, où la moitié des engagés étaient nés au Royaume-Uni. Ça a changé aujourd'hui. Oui. Pour certains, l'engagement se fera sous les drapeaux d'une autre armée, au Parc La Fontaine à Montréal. Un monument rappelle les noms de 106 jeunes hommes de la ville qui se font engager dans l'armée française. Ils n'étaient pourtant pas tous d'origine française, ces engagés de Montréal. Ainsi, selon l'historien Marcel Fournier, plusieurs des 1200 hommes engagés dans l'armée française étaient Canadiens ou résidaient au Canada depuis assez longtemps. C'est le cas de Paul Caron, né en 1889 à Montmagny, entré au service du journal Le Devoir. Il envoyait régulièrement ses écrits au journal. On y perçoit son vif sentiment de mener une guerre juste au milieu de conditions pourtant nouvelles. Il n'y a plus de bataille, c'est un embrasement général. Mourir le cœur troué par une balle ou une baïonnette ennemie, c'est triste sans doute, mais autre chose est de se faire oxyre à distance par un engin qui vous tombe dessus sans crier gare et contre lequel vous ne pouvez rien, écrit-il dans Le Devoir en 1915, en donnant ainsi une idée de ce nouveau type de guerre menée avec des moyens industriels. Le 16 avril 1917, Caron est tué sous l'uniforme français à Nivelles, dans le Nord, à titre d'adjudant du 133e régiment d'infanterie. Est-ce que j'ai encore une minute?
Oui.
Bon. Par ailleurs, le soldat Joseph-Alphonse Couture est l'un des simples soldats à avoir écrit un genre de journal sur ses expériences de guerre. L'historien Mourad Djebabla Brun, historien, professeur au Collège militaire de Saint-Jean, vient de faire paraître les carnets de guerre du soldat Couture. Le professeur a dit au journaliste Nadeau que les Canadiens français se trouvaient dans des unités anglophones avant la création du 22e régiment. Souvent, explique l'historien, les Canadiens français servaient de sauve-conduit une fois en Europe. On les mettait devant comme premier contact avec les populations parce que les liens étaient beaucoup plus faciles avec les Canadiens français. À cause de la culture et de la langue, explique le professeur. Dans ses carnets publiés sous le titre « Du Saint-Laurent au Rhin, R-H-I-N », le soldat Couture note la proximité qui se trouve à unir avec les Français et les Belges, à l'unir avec les Français et les Belges de la Wallonie. Il parle avec émerveillement de sa découverte de l'Europe, de ses permissions à Londres, mais surtout de Paris, des théâtres et des amusements. Pour lui, c'est vraiment l'émerveillement. Il vient de Saint-Agapit, il a 19 ans, il écrit comme il parle, très simplement. Il veut garder une trace, il écrit, une trace d'émerveillement au beau milieu de l'horreur de cette guerre. Alors, un beau texte de Jean-François Nadeau qui paraît dans Le Devoir de fin de semaine, 10 et 11 novembre. Paysage et visage du simple soldat.
Oui, bonjour. Moi, je vous propose un texte qui est paru aussi dans Le Devoir le 10 novembre d'Alexandre Shield. C'est au sujet de Dominique Champagne qui s'est présenté auprès du premier ministre. Ce que j'aime dans ce texte-là, vous allez le voir, c'est qu'il propose une approche différente, quelques approches différentes. Que voilà. Deux jours après le lancement du pacte pour la transition, son instigateur, Dominique Champagne, estime être parvenu à ouvrir le dialogue avec le premier ministre François Legault, qui a accepté de le rencontrer vendredi pour discuter des enjeux climatiques du Québec. Le metteur en scène Dominique Champagne s'est présenté vendredi matin au bureau du premier ministre, fort de l'appui de 125 000 noms qui avaient signé son pacte, et ça en seulement 48 heures. Il en est d'ailleurs ressorti en se disant convaincu d'avoir ouvert un dialogue avec M. Legault, et ce même si les dossiers environnementaux n'ont pas été au cœur de la campagne caquiste. Il a été très à l'écoute. La préoccupation semble sincère et bien réelle, a-t-il expliqué au Devoir, après sa rencontre d'une heure avec François Legault et le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Marie-Chantal Chassé. Contrairement à la position d'opposant qui caractérise bien souvent le mouvement environnementaliste, Dominique Champagne a souligné que ce dialogue s'inscrit dans une dynamique d'ouverture. On voulait établir une relation de confiance avec le premier ministre, parce qu'on ne souhaite pas se cantonner dans l'opposition. Nous voulons chercher activement des solutions. En même temps, dit-il ajouté, nous allons garder une saine distance parce que nous voulons surtout relayer l'appel à la raison scientifique, qui nous dit plus clairement que jamais qu'il y a urgence d'agir. Je crois que si la société civile se lève et s'exprime, nous allons pouvoir faire entendre raison à ceux qui nous gouvernent. On ne se positionne pas aujourd'hui dans un esprit d'affrontement. On veut s'orienter vers la transition fièrement. La rencontre de vendredi aurait été d'ailleurs permis d'inscrire un premier élément, a précisé Dominique Champagne. Nous avons convenu, et j'espère que ça va se concrétiser, d'une rencontre de scientifiques pour placer la science au cœur des décisions. J'ai senti la bonne volonté de la part du premier ministre qui semble vouloir faire appel à la raison. Le cabinet de François Legault a cependant refusé vendredi de confirmer l'engagement à tenir une telle rencontre. Le bureau de M. Legault a également confirmé que trois ministres seront présents avant-hier, à la Grande Marche pour le climat organisée par le collectif La planète s'invite au Parlement. Cette manifestation organisée par un collectif citoyen s'inscrit dans la foulée d'autres initiatives en développement à l'heure actuelle dans la province, constate Karel Méran, directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki. Dans le passé, on a souvent vu des mouvements d'opposition à des projets précis, comme le pipeline Énergies ou l'industrie du gaz de schiste. Mais ce qu'on voit de plus en plus, ce sont des actions en faveur de l'action climatique. C'est ainsi que des groupes ont choisi de rédiger une déclaration d'urgence climatique qui peut être adoptée par les conseils municipaux pour faire pression sur les autres échelons gouvernementaux. Spécialiste des changements climatiques depuis plus de 30 ans, la biologiste Catherine Potvin estime d'ailleurs que des initiatives comme le pacte pour la transition ou la déclaration d'urgence climatique sont essentielles pour en arriver à transposer les constats scientifiques dans l'action politique. C'est absolument essentiel de voir émerger des initiatives citoyennes sur les enjeux climatiques. La science peut seulement mettre en évidence des constats et nous expliquer les conséquences de nos gestes et de nos décisions. Mais nous, les scientifiques, nous n'avons pas le contrôle des actions des gens et des gouvernements. Professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM, Corinne Gendron estime pour sa part qu'au-delà du contexte propice aux initiatives citoyennes en faveur du climat, il importe de rappeler qu'une grande part de la responsabilité revient aux décisions des infrastructures, notamment politiques et économiques. Un point de vue que partage Normand Mousseau, auteur du livre « Gagner la guerre du climat, 12 mythes à déboulonner ». C'est pour cela que le pacte pour la transition souligne le besoin de s'assurer que toutes les actions du gouvernement vont dans le même sens, dans la même direction, afin que chaque effort, chaque dollar nous amène vers le but recherché. C'est possible. Des pays ailleurs dans le monde l'ont fait. Ils ont démontré qu'en se donnant une vision environnementale claire, on peut s'enrichir et on peut avoir une meilleure société. Voilà, je vous rappelle, c'est un texte de Alexandre Schill, paru dans le Devoir du 10 novembre.
Sont arrivés en Westphalia en criant SOS Gaïa, accoutrés comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée en bédaine et jouant du tam-tam, on se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé aux plis poilus en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du Vieux-Montréal, tout cela pour manifester contre les multinationales. Et la mince foule grelottait en ce froid jeudi de printemps. Et aux étudiants qui foxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pote. Et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Mais on a vite constaté qu'il lui manquait un bardeau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation! L'anti-émeute et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système. Et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes ou de ninja cagoulés, se proclamant activistes comme des petits Che Guevara. Ils ont pitché deux, trois pétards. Les bœufs sont rentrés dans le tas. Je jure qu'ils ont pas veillé tard. À la manifestation, on rêvait. Dans le cul avec une poignée de compas sous la pluie froide du mois de mars. Mais là ça a dégénéré car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danseton. Les policiers en beau fusil ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jarnac. Pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice, on entendait les chiens japper à travers le bruit des sirènes, ben étouffés par la fumée des gaz lacrymogènes. Au même moment, la gang de fils qui dansait à poil sous la pluie faisait comme un remake de Grease en version hillbilly. Quand le ciel s'est déchaîné, il s'est mis à tomber des clous, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Et ce fut terminé, pas qu'on est rentré déçus, tout mouillé et abattu, en croisant les écolos dans le portique de McDo. J'en suis venu à conclusion, ça va prendre bien du soleil, sinon c'est pas demain la veille qu'on va faire la révolution. À la manifestation, c'est vrai qu'on n'a rien changé. On a posé un bouchon de circulation, ça fait toujours bien ça.
La manifestation telle que chantée par les Cowboys fringants.
Qu'on a de la suite dans les idées, Jean-Sébastien, bravo. J'y étais à cette manifestation samedi, il faisait froid. Et j'ai aussi appris que le vice-président de Vues-et-Voix, André Vincent, y était également, mais on ne s'est pas croisé, malheureusement. Oh. Donc, je passe la parole à Serge, qui nous parle de café.
Ben oui, avez-vous pris votre café
oui,
ce matin?
Ça réchauffe.
Oui, ça réchauffe, ça fait du bien. Ça réveille un petit peu. Est-ce que vous avez une machine chez vous? Est-ce qu'elle vous convient? Aimeriez-vous la changer? Si oui, j'ai peut-être la réponse pour vous.
On va vous écouter.
Oh. Linda Gauthier a écrit ça, cet article-là, dans la revue Protégez-vous, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Oui. Alors, vous êtes un amateur de café? Notre dossier vous aidera à choisir l'appareil qui répond à vos besoins. Ça fait plusieurs années que vous réclamiez un test de cafetière filtre, dont le dernier remontait à 2006, hein, quand même. Alors, c'est désormais chose faite avec cette évaluation réalisée en collaboration avec Consumer Reports. On a évalué 33 modèles parmi les plus populaires, en tenant compte de plusieurs critères, la performance d'infusion, la facilité à faire fonctionner le filtre. On a également évalué la facilité à manipuler la carafe et la vider. Au total, 10 cafetières se classent dans le palmarès de recommandations. Et pour satisfaire les amateurs de café espresso, comme moi, on a également mis à l'essai 18 machines qui produisent ce type de café et en collaboration avec l'Académie culinaire de Montréal, on a évalué divers aspects techniques comme l'ergonomie des appareils, le positionnement des commandes, le niveau de bruit ainsi que la facilité à nettoyer les différentes composantes. 4 baristas et torréfacteurs ont aussi goûté à l'aveugle les espressos produits par chacune des machines de notre évaluation. Et leur mission, identifier les appareils qui préparent le mieux un café bien équilibré et aux arômes agréables. Ils ont aussi tenu compte de l'aspect de la mousse, appelée créma. Et résultat, 6 appareils obtiennent la mention « bon choix » ou « meilleur choix ». Et je suis content d'avoir, parmi ces appareils-là, l'appareil en question qui est meilleur choix. Alors, voyez l'ensemble des résultats de notre test. Mais c'est pas moi qui l'ai payé, je vous dis ça en passant. Alors, voyez l'ensemble des résultats de notre choix des cafetières. Ça va? Alors, on y va pour la cafetière filtre. C'est beau?
Nous sommes toutes oui. Oh.
Alors, la capacité. Vous êtes plusieurs à boire du café à la maison? Favoriser un modèle à grande capacité, comme c'est le cas de toutes nos recommandations. Elles vous permettent d'infuser de 12 à 14 tasses. Attention, la tasse de référence des fabricants n'est que d'environ 150 millilitres. Aha! Alors, si les vôtres peuvent contenir 250 millilitres de liquide, comme c'est le cas en général, ah ben, vous ne pourrez servir à la fois que 8 cafés environ. C'est beau les calculs, hein? Oh. Le réservoir... Certaines machines à café sont équipées d'un réservoir d'eau amovible facile à remplir. Parmi les recommandations, seul notre meilleur choix, le KitchenAid KCM 1202 en possède un. Le KitchenAid, OK, 1202. Voulez-vous savoir combien il coûte?
Ça serait
Je l'ai
bien.
Ici. Il coûte 115 $. Hein, quand même. Hein? Le type de carafe. Si vous buvez plusieurs cafés tout au long de la journée, ce qui n'est pas très recommandé, vous pourriez être tenté par un modèle avec carafe thermique qui conservera la fraîcheur et la température de votre café durant quelques heures. Aucune des cafetières dotées d'une telle carafe ne s'est toutefois classée parmi nos recommandations. Privilégiez donc un de nos modèles recommandés qui sont tous munis d'une carafe en verre. Si vous souhaitez boire plusieurs tasses au cours de la journée, mieux vaut toutefois préparer plusieurs carafes plutôt que de laisser votre cafetière chauffer trop longtemps parce que ça, ce n'est pas écologique. On l'a vu il y a 2 semaines. On en a parlé. Laisser des cafetières qui chauffent et bon, etc. Alors, je termine par les meilleures cafetières. C'est beau? J'en ai 5, 6 modèles. Cuisinart Perfect Temp. Vous avez vos crayons, tout le monde? De toute façon, c'est dans la revue Protégez-vous que vous pourrez consulter. Cuisinart Perfect Temp aussi, il y a 2 modèles. La 3200C puis la 2800C. La Capresso, la KitchenAid, comme je mentionnais tantôt. La KitchenAid aussi, mais un autre numéro. L'autre, c'était 1202, celle-là, c'est 1204. Et la Cuisinart. Ça, c'est l'un des meilleurs choix de cafetière filtre. Alors, je vous souhaite à tout le monde un bon matin et un bon café.
Alors, je vais vous lire le texte d'Émilie Dubreuil, qui est dans la revue Voir, et je me suis un peu reconnue pour les femmes qui sont allées dans les pensionnats. Vous allez aussi vous reconnaître un peu. Quand tout le monde, et je vous parle du trou, quand tout le monde s'est mis à capoter sur le trou dans la couche d'ozone, J'étais encore au primaire, mais comme mes parents étaient abonnés à 4 journaux et que mon frère et moi imitions les adultes et lisions le matin des papiers gorgés d'encre en déjeunant, je le savais, moi, qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone. Je crois me souvenir qu'en 85 ou 86, j'avais même poussé mon imitation des adultes jusqu'à boire du café, en tournant les pages des journaux que nous nous échangeons à tour de rôle. En fait, c'était pas mal ce qu'on faisait pour les journaux. On regardait les caricatures, les cherchait l'erreur à la fin. L'horoscope aussi. J'ai d'ailleurs gardé cette vilaine habitude de lire mon horoscope tous les matins, sinon je me sens un peu nu toute la journée. Il m'est difficile de ne pas reconnaître mon avenir, ne serait-ce que 24 heures. C'est comme sortir sans culotte. L'avenir, c'est la clé. Tout cela pour dire que le trou dans la couche d'ozone, on en parlait beaucoup quand j'étais au primaire. Ça faisait la manchette presque quotidiennement et j'avais beaucoup impressionné ma maîtresse d'école, Nicole, dans la classe 6B, en lui posant à brûle-pourpoint une colle du genre « Ça sert à quoi d'apprendre les mathématiques si nous allons de toute façon tous mourir à cause du trou dans la couche d'ozone? » Nicole ne m'aimait déjà pas beaucoup, j'avais pas mal la bougeotte, aujourd'hui on dirait hyperactive, mais c'était avant le Ritalin. Nicole était une religieuse défroquée, elle roulait ses airs et portait des bas beiges. Parfois, pour calmer les élèves, elle fermait les lumières et demandait à la classe de faire des prières. À ce moment-là, elle me disait « Émilie, tu peux sortir? » Comme je n'étais pas baptisée, elle me faisait sortir dans le corridor. Moi, c'était à la bibliothèque qu'ils m'envoyaient à l'époque. Heureuse enfant. J'étais la seule non baptisée dans la classe. Et oui, bien sûr qu'il y avait un crucifix dans la classe. Ben oui, il y en avait dans toutes les écoles. À l'école publique? Ben oui, à l'école publique. En décembre, on m'excluait même de la sortie de la classe à l'oratoire pour aller voir les crèches. Ça rendait ma mère furieuse. Je me souviens d'une scène où elle avait engueulé Nicole et la directrice de l'école devant tous mes camarades de classe en lui disant « C'est pas parce que ma fille n'est pas baptisée qu'elle ne peut pas comprendre notre culture et notre histoire. » Pour ajouter à la stigmatisation, mes parents, tous deux abonnés à 4 journaux, étaient séparés et avaient inventé un système jugé fort suspect par Nicole, la garde partagée. Un truc totalement marginal en 85. Bref, en cette année de trous dans la couche d'ozone et de l'entrée de Pierre Lambert dans notre mémoire collective, j'étais la seule à suivre l'ennuyant cours de morale, alors que tous mes amis, eux, jouissaient d'une agréable séance de détente qu'on appelait la catéchèse et coloriaient des saintes vierges avec des crayons de couleur qu'ils tiraient de leur boîte Prismacolor. Eh oui, je suis vieille et d'ailleurs, je m'égare. La couche d'ozone, donc, ça me poigne souvent depuis des années que je me dis « Coudon, pourquoi on parle plus du trou dans la couche d'ozone? » J'ai fouillé un peu sur le net et il est en train de se refermer, ce fameux trou. Mais bon, faut pas croire tout ce qu'il dit sur Internet, il paraît. Après la couche d'ozone, il y a eu les pluies acides. J'ai fait au moins 23 euros, projet en groupe, bricolage à l'appui pour expliquer le phénomène des pluies acides. Et ça aussi, ça me turlupine pas mal. Les pluies acides, elles ont disparu? En tout cas, elles ont disparu des unes des journaux que nous lisions à la table du petit-déjeuner, comme les cotons ouatés fluorescents de ma garde-robe. Bref, depuis que je lis les journaux et que je bois du café, tout est dans tout, Serge. Ce qui est arrivé de façon un peu précoce dans mon existence, j'en conviens, la chronique d'une planète qui meurt côtoie mon horoscope chaque matin. Dans mon cours d'anglais en 6e année, l'enseignante, dont je ne me souviens plus du nom, nous avait fait apprendre par cœur Russians, une chanson de Sting. Et c'est drôle parce que moi aussi, je la sais par cœur, cette chanson. 30 ans plus tard, je suis encore capable de chanter cette chanson du début à la fin. C'est fou, la mémoire. Le vidéo était hyper angoissant, en noir et blanc, des enfants qui dansent autour de vieux, qui planifient de faire exploser la planète, avec des horloges en deuxième plan sur lesquelles il était minuit moins 5. Le texte de la chanson disait essentiellement que les Russes et les Américains devaient arrêter la course à l'armement nucléaire par amour de leurs enfants. Nucléaire, changement climatique, parfois, quand je lis les journaux, j'ai comme une impression de déjà-vu. Et je commence à me poser quelques questions sur le sérieux des horoscopes. C'est Émilie Dubreuil dans Le Voir.
Isn't no monopoly of common sense? Are the
Alors, re-bienvenue, Jean-Charles. De quoi allez-vous nous parler pendant cette deuxième
demi-heure?
Oui,
j'ai choisi un autre texte dans Le Devoir, mais cette fois-ci du 3 novembre. Il était d'actualité à ce moment-là. Le changement d'heure comme une fatalité. Oui. Vous allez voir que ça ne fait pas l'unanimité.
Et Roger?
Bon, c'est le Champ libre, c'est la chronique de David Desjardins dans l'actualité. Oui, dans l'actualité, c'est ça. Et cette semaine, il intitule son texte « La culture du magasin ».
Merci. Et Serge, vous nous réveillez avec quoi maintenant?
Ça ne vous tente pas de prendre du café filtre, mais vous aimeriez un espresso, alors je vais vous parler des meilleures machines espresso.
C'est okay? Bon. Et pour nous, pour le reste des auditeurs, c'est un texte de David Goudreau. Écoutez, les auditeurs, vous ne le saviez pas, mais c'est un verbe d'action.
Donc voilà, le changement d'heure comme une fatalité, c'est un texte de Fabien de Glise. La décision a pris tout le monde par surprise le 26 octobre dernier, moins de 48 heures avant le passage à l'heure d'hiver. En Europe, il se fait deux semaines plus tôt sur le continent africain et européen. Le gouvernement du Maroc a adopté un décret afin de ne pas reculer les horloges d'une heure comme prévu et de rester toujours dans l'heure d'été. But de l'opération? Mettre fin au supplice du décalage horaire saisonnier et à ses répercussions, ont indiqué les responsables de cette réforme soudaine, citée par Maghreb Agency Press, MAP. Le Maroc, après 10 années de changement d'heure, vient ainsi par ce geste de gagner une heure de lumière naturelle par jour et assure qu'il va faire des économies d'énergie. Il allonge aussi la liste des pays qui, désormais, ne veulent plus composer avec les changements d'heure en mars et en octobre. Du point de vue de la santé, il n'y a aucun avantage à faire un changement d'heure au printemps et à l'automne. Laisse tomber à l'autre bout du fil le psychologue Roger Godbout, spécialiste de la santé mentale et du sommeil. Le scientifique qui travaille au département de psychiatrie de l'Université de Montréal évoque entre autres l'augmentation des accidents de voiture ou des accidents cardiovasculaires lors du retour à l'heure d'été. Il parle des troubles du sommeil, d'adaptation à la nouvelle organisation du temps, qui touche particulièrement les enfants, les personnes vivant en institution, comme les personnes plus sensibles à la lumière que d'autres. Et selon lui, pour toutes ces raisons, il serait désormais temps de rouvrir le débat sur l'abolition du changement d'heure. Historiquement, la mesure visait à réduire la consommation d'électricité dans la foulée du choc pétrolier de 1973, et ce, en syntonisant l'activité humaine avec la lumière naturelle. Or, désormais, l'argument des économies d'énergie n'arrive plus à être soutenu par des études scientifiques. Les opposants, et ce, à ce va-et-vient des aiguilles, disent même que ces économies sont marginales, ce que confirme d'ailleurs Hydro-Québec. À l'époque où l'éclairage était la principale source de consommation d'énergie, le changement d'heure pouvait avoir un effet, explique Louis-Olivier Batty, porte-parole de la Société d'État. Aujourd'hui, l'éclairage représente 5 % de l'électricité utilisée et le chauffage des espaces et de l'eau, 75 %. Modifier l'heure ou pas ne change désormais plus rien sous l'angle énergétique du moins. Cela explique sans doute ceci. À 84 %, c'est massivement que les Européens se sont prononcés pour l'abolition du changement d'heure à compter du 1er avril 2019 et dans un sondage piloté par la Commission européenne. L'argument économique est le seul qui justifie le maintien du changement d'heure, dit Mme Harvey, jointe par Le Devoir au Japon, un pays où l'heure est stable, elle y étudie la langue. Mais ce faisant, on fait abstraction de son effet sur le sommeil, sur l'augmentation de la fatigue, du stress, sur la prise de médicaments des grands malades, sur l'humeur des enfants et sur les conséquences que cela a pour les parents, ajoute-t-elle, en appelant elle aussi à mettre fin à ce yo-yo temporel pour le bien de tous. Au cabinet du ministre de la Justice, qui est le gardien de ce changement de temps, on confirme au Devoir qu'aucune démarche n'est en cours pour faire entrer le Québec dans une heure d'été ou d'hiver de manière définitive. Le changement fait grogner temporairement certains, mais il ne déchaîne pas les passions, concède Roger Godbout, le spécialiste en santé mentale. Il croit toutefois que la question du sommeil gagnera à être prise un peu plus au sérieux dans nos sociétés qui sous-estiment les conséquences du sommeil carencé ou malmené sur la santé, sur les accidents ou encore sur les rapports sociaux, selon lui. On est habitué de se faire bousculer le sommeil, dit-il. Là, c'est une occasion de plus acceptée avec la même fatalité. On ne sait déjà pas que notre rapport au changement d'heure pourrait être différent et que d'autres pays ne changent plus de l'heure depuis longtemps, ajoute Mme Harvey. Alors, on accepte le problème comme on accepte de marcher parfois avec un petit caillou dans la chaussure en faisant des mouvements de pied pour en diminuer la douleur. Et ce, jusqu'au moment où l'on doit s'arrêter pour autre chose et où on en profite alors pour enlever le petit caillou. Un arrêt qui, pour le moment, n'est pas à l'horaire. Voilà donc un texte de famille d'Église dans Le Devoir du 3 novembre.
Merci.
Merci.
Alors, je reviens avec le texte annoncé par David Desjardins, Chant libre, la culture du magasin. Il écrit ceci, c'est facile de rire des 4000 personnes qui faisaient le pied de grue devant le nouvel IKEA du Québec en août pour participer à son ouverture. Certains avaient passé la nuit sur place, si bien qu'il aurait été beaucoup moins long pour eux d'effectuer l'aller-retour à la succursale de Boucherville, ai-je en substance tweeté ce matin-là. La récolte des likes fut faste.
Elle est bien bonne.
Oui. Il fait toujours bon se hisser dans les hauteurs morales pour ridiculiser son prochain. C'est facile de rire du monde qui passe la nuit dehors pour entrer en premier dans un magasin. Seul l'est moins de remettre en question un système qui a érigé la consommation en mode de vie et l'acte d'acheter en une sorte de rite qui vous lave de l'ennui du quotidien. Tout l'équilibre de notre monde réside dans le concept de croissance économique. Celle-ci repose sur la consommation qui, elle, est soutenue par le crédit menant à l'endettement massif qu'on observe. Ça fait l'affaire de tous, sauf peut-être de ceux et celles qui sont submergés par l'endettement et qui rêvent d'une autre option. Pierre-Yves McQueen a publié un livre intitulé « En as-tu vraiment besoin ?» vendu à 170 000 exemplaires au Québec.
C'est M. McSween, je crois.
McSween, oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit?
McQueen.
Non, c'est McSween. Je m'excuse auprès de M. McSween. Alors que certains l'accusent de faire de la morale, il répond qu'il dit seulement à ses lecteurs qu'ils peuvent être plus libres s'ils changent leur manière de consommer. À la question de savoir si ça l'impressionne, la file des gens qui attendaient l'ouverture d'IKEA, il dit seulement ceci, « Bof, je pense que les gens étaient là pour un happening, un peu comme on fait la file pour acheter des billets de concert. » Nos sociétés vénèrent les grands entrepreneurs, leur vouent un culte, leurs habitudes sont scrutées afin d'y trouver la recette du succès. Ils répondent tous qu'ils travaillent fort, ces entrepreneurs, et ils travaillent beaucoup. Le caissier au dépanneur aussi travaille beaucoup. L'infirmière également, le préposé aux bénéficiaires, la soudeuse, le monteur de ligne. Ceux-là regardent les riches étaler les symboles de leur opulence, le résultat d'un dur labeur, et ils veulent faire pareil, être récompensés publiquement si possible. Tout cela vous semble une évidence, pourtant nous nous arrêtons rarement pour considérer tous les mécanismes qui mènent là. Le vide ressenti après un achat que l'on remplace par un autre. L'extrême détresse de gens qui triment comme des fous pour vivre le rêve alors que justement, ce n'est qu'une mystification. On leur enjoint de consommer mieux. C'est comme leur dire que le ciel les attend après leur mort s'ils vivent pieusement. C'est fou, mais on n'a qu'une vie à vivre. Faut en profiter, disait au Journal de Québec une femme ayant passé la nuit à attendre l'ouverture du géant du meuble suédois. C'est facile de rire du monde qui attendait dans la file, mais ça fait juste mal de lire un truc comme celui-là. Puis de s'apercevoir que le consumérisme n'a pas remplacé la religion, que cette queue devant un bâtiment bleu et jaune n'est pas l'équivalent des grandes processions comme la fête Dieu que l'on voyait dans le film « Les ploufs » de Gilles Carle, et que ce n'est pas le diable à l'œuvre non plus, c'est une culture. Selon l'endoctrinologue Robert Lustig, dans « The Hacking of the American Mind », cette culture repose sur une confusion entre les concepts de plaisir et le concept de bonheur, qui sont en fait opposés. Le premier provoque la sécrétion de dopamine, une récompense immédiate mais fuyante. Le second, la sérotonine, plus durable. Mais on tente de nous convaincre que d'accumuler les épisodes d'euphorie nous mènera à la félicité. Lustig a beaucoup écrit sur le sucre, qui procurerait lui aussi un plaisir immédiat que l'on souhaite sans cesse reproduire. Il s'est insurgé contre le marché de l'alimentation qui en a profité, pour causer une épidémie d'obésité. Le voilà qui applique le principe à la consommation en entier. Je veux bien, mais on fait quoi après? On peut vivre sans le sucre ajouté, mais révolutionner la culture? Il n'y a pas de quoi rire des personnes qui étaient en file devant l'IKEA. Cela ne donne l'occasion qu'à des gens comme moi de se sentir supérieurs. Comme le personnage de Buddy dans la série Ozark, qui écoute les jeux télévisés pour se moquer des participants. Cela lui permet d'oublier qu'il est là, en plein jour, à regarder des émissions merdiques, dit-il, et qu'il n'est pas vraiment mieux qu'eux, finalement. Peut-être plus lucide, certainement pas moins triste.
Et si le sujet vous interpelle, il y a une pièce de théâtre qui va débuter demain au théâtre d'aujourd'hui. C'est du 13 novembre au 1er décembre. Elle est d'Emmanuel Jiménez et le titre de la pièce est « Centre d'achat ». Voilà.
D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Ayons-nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoir, car au sentimental, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Il se dégage de ses cartons d'emballage, les gens la vie hors d'usage, et triste et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent, on nous prend pour pas déconner, dès qu'on est né pour des cons, alors qu'on est des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. sentimental, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. On nous cloue d'un chiffre, on nous parle aussi des arts. Ah, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moquette du ciel des femmes. Foule sentimentale, on est des foules sentimentales. Foule sentimentale, on est des foules sentimentales. Foule sentimentale, on est des foules sentimentales.
Reprenant Alain Souchon en 1993, on vient d'entendre cette version full sentimentale de Annie Poulain.
Bien, merci beaucoup. Je passe la parole à Serge.
Bon, alors, vous aimez ça fort, vous aimez ça corsé, eh bien, bien choisir votre machine à espresso, manuelle ou automatique, dotée d'un petit ou grand réservoir d'eau, avec ou sans moulin intégré. Voyez les particularités des cafetières à espresso et découvrez les meilleurs modèles. C'est beau, hein?
Mm-hmm.
Manuel ou automatique, vous? Manuel ou automatique?
Elle est automatique, la mienne.
OK. Pas de votre auto, là?
Non, j'en ai pas.
OK. Une cafetière manuelle vous permet de contrôler plusieurs paramètres, dont la force de compression et le temps d'extraction du café. Vous pouvez ainsi produire des espressos qui répondent au goût de chacun. Toutefois, cela exige une série de manipulations, remplir le filtre, compresser le café, etc. Et ces modèles sont en général moins chers que les automatiques. Ah, ben, c'est comme les autos, finalement. Hein? Et parmi nos recommandations de cafetière manuelle, notre bon choix se vend à 400 $. Oh, c'est bon, ça. Vous préférez la facilité? Optez pour un appareil automatique qui calcule lui-même la quantité de grains requise pour chaque tasse. Et les cafetières automatiques produisent un café d'une qualité comparable à celui des manuels, mais elles le font un peu plus vite. 2 minutes 16 secondes en moyenne pour deux tasses, contre 3 minutes 40 secondes pour les modèles manuels.
Mais quand on se lève en retard, c'est parfait.
La facilité et la rapidité ont toutefois un prix. Pour une minute, là, c'est cher.
Ça sort la minute.
Les deux meilleures machines automatiques de notre test se vendent à 1215 $ et 1990 $.
Vous avez compris pourquoi j'ai pas de véhicule. J'ai décidé d'acheter une cafetière.
Vous avez la selle à 1215. Bon, vous n'avez pas la meilleure. Oh, ben, coudonc. La meilleure est à 1280, dans 2000. Alors, les dimensions. Prévoyez assez de place sur votre comptoir, oui, car les machines à espresso sont volumineuses, surtout les automatiques. Et tenez compte de l'espace de dégagement qui est nécessaire en hauteur pour remplir les réservoirs d'eau et de grains. Alors, vous pouvez aussi opter pour un modèle qui permet un remplissage en avant ou sur le côté. Deux de nos meilleurs choix offrent cette possibilité. Celle-là, je ne la connaissais pas du tout. Ça, c'est la meilleure machine manuelle. C'est la Gaggia. Ça vous dit quelque chose, vous? La Gaggia, G-A-G-G-I-A, classique. Ça, c'est le réservoir à l'avant et le Jura Impressa E6 sur le côté. Vous, est-ce qu'elle est sur le côté, le réservoir d'eau?
Oui.
Vous avez la plus chère. Vous l'avez payé juste 1200, elle est à 1900. Oh, mais ça doit faire plusieurs siècles de ça. Alors, le réservoir d'eau et le nombre d'infusions. Vous aimez recevoir des amis? Aimez-vous ça, recevoir des amis? Hein? Alors, privilégiez... Vous aimez ça quand ils arrivent, vous aimez ça quand ils partent aussi, c'est ça? Alors, privilégiez un modèle équipé d'un grand réservoir qui vous permettra de préparer jusqu'à une trentaine d'espresso courts d'affilée. Ah, mon Dieu! Vous avez des amis, vous? L'appareil qui a la plus grande contenance parmi ceux que nous avons testés pour recevoir 3,5 litres d'eau et celui dont le réservoir est le plus petit peut contenir 1 litre. Et tous les modèles testés peuvent préparer 2 cafés à la fois à l'exception du Jura A1. Bon. Et le moulin intégré? Toutes les cafetières automatiques sont munies d'un moulin intégré et du côté des appareils manuels testés, seul le Breville Barista Express, que je possède, soit dit en passant, je vous fais concurrence, classé parmi nos meilleurs choix, en possède un. Et les modèles... Ben, puis il ne marche pas ce matin. Le moulin intégré a arrêté de fonctionner ce matin. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et les modèles qu'on a évalués offrent de 4 à 16 options de mouture. C'est bon pour vous? Le mousseur ou la buse? Alors, à choisir. Alors, la Gaggia, la Lilitana et la Breville sont les meilleures dans les manuels. Et dans les automatiques, c'est la vôtre, la Jura Impressa E6. À 1990 $. Les autres sont à 500, 700, 800. OK?
Merci. David Goudreau dans la tribune de Sherbrooke, écouter est un verbe d'action. J'ai profité de l'aide de professionnels de la santé, de véritables psychothérapeutes. J'en ai reçu de la part de fraternités anonymes et j'en ai aussi obtenu de mes proches, des membres de ma famille ou des amis. Vous vous rappelez que la semaine dernière, il nous parlait de ses 10 ans de sobriété, David Goudreau. Au-delà de la teneur des confidences ou des compétences des personnes vers qui j'ai pu me tourner, ce qui m'a d'abord aidé, c'est l'accueil que j'ai reçu et surtout l'écoute. Je ne me souviens pas exactement des mots que j'ai employés. J'ai pu te souvenir des réponses que l'on m'a faites, des formules d'encouragement ou des conseils avisés que l'on m'a prodigués. Je ne me souviens même pas de l'heure ou de l'endroit où je me suis confié, mais je me souviens très bien du sentiment d'être écouté ou pas. Je garde en mémoire la patiente bienveillance de celle-ci et la propension à me couper la parole de celui-là. Je me souviens d'être allé au bout de mon idée et d'avoir fait émerger des solutions par moi-même ou de m'être fait bombarder de pistes de solutions sans avoir l'impression d'être compris. Papa! Regarde mon bobo! Évidemment, je vais désinfecter la plaie sur le genou de ma fille, je vais souffler dessus, lui mettre un beau diachylon à l'effigie de Dora et lui recommander d'être plus prudente à vélo. Mais quand je vais l'écouter brailler un peu et je vais observer son égratignure, mais avant, dis-je, je vais l'écouter brailler un peu. C'est ça, son premier besoin. Elle l'exprime très bien d'ailleurs. Papa, regarde mon bobo! Et non, cher père compétent, empresse-toi de m'administrer des soins de qualité. Ma fille, comme moi, comme vous et vos proches, nous avons d'abord besoin d'être reconnus de ce que nous vivons dans notre réalité affective, dans le ressentiment associé à notre situation. Une de perdue, 10 de retrouvée, tu pourrais slacker la bouteille, il faut faire plus de sport et toutes les autres phrases toutes faites que l'on balance avec bonne intention, on devrait juste les balancer aux poubelles. Même si les crises peuvent se ressembler, chacune est unique, comme ceux et celles qui les vivent. Ça vaut la peine de prendre le temps de faire le tour, d'écouter les détails du problème, de chercher à comprendre notre interlocuteur. De toute façon, il a sûrement pensé aux solutions qu'on veut lui offrir. Elles mûrissent peut-être déjà en lui. S'il se confie, c'est surtout qu'il a besoin de se sentir accueilli, que l'on normalise ce qu'il vit, que l'on reconnaisse sa souffrance et son droit de souffrir. Souvent, ça suffit. Un vieux chum d'adolescence a croisé ma route dernièrement. Malgré un large sourire, son regard flottait au bord des larmes. On s'est écrit, puis on s'est donné rendez-vous dans le bois. 2 heures de marche à jaser de la vieille époque et de l'avenir. Un peu du présent aussi, mais son présent est douloureux. Je n'insistais pas. Il me donnait des bribes de ce qu'il vit, puis il déconnait pour détendre l'atmosphère. Mais il y revenait, et je l'écoutais de mon mieux. Je fermais ma gueule. C'est difficile. Pas seulement parce que j'ai une grande gueule, mais parce qu'on veut aider celui qui souffre. On veut lui offrir la phrase réconfortante ou la bonne idée qui va régler le problème. On veut se mettre en action pour lui être utile, mais fermer sa gueule et écouter... c'est mieux. L'écoute est une forme d'intervention en soi. Au-delà des travaux de Carl Rogers sur l'écoute active et ses bienfaits, au-delà des techniques de reflet et de reformulation si chères aux intervenants psychosociaux, persiste cette simple vérité. Être compris permet de mieux se comprendre soi-même. En sortant de la forêt, mon chum était souriant, des lèvres et du regard. On n'a rien réglé de ses problèmes, mais il semblait déjà moins lourd. Ma fille est bien faire de sa gale. Elle sait désormais que je l'accueillerai de mon mieux quand elle se blessera au genou. Ou au cœur, à 5 ou 20 ans. Et moi, je me trouve chanceux d'être plutôt heureux depuis quelques années. Je le dois en bonne partie aux personnes qui m'ont écouté pendant que je pataugeais et cherchais mes propres solutions à mes propres problèmes. Si ces lumineuses oreilles me lisent ou m'écoutent aujourd'hui, merci. C'était David Goudreau dans la Tribune de Sherbrooke, un article qui date du 26 mai 2018.
I won't tell you not to, I won't try to cheer you up. I'll just be here if you want me. It's no use in keeping a stiff upper lip. You can weep, you can sleep, you can loosen your grip. You can frown, you can drown and go down with the ship. You can cry if you want to. Don't ever apologize, venting your pain. It's something to me you don't need to explain. I don't need to know why, I don't think it's insane. You can cry if you want to. The windows are closed, the neighbors aren't home. If it's better with me than to do it alone, I'll draw the curtains and unplug the phone. You can cry if you want to. You can stare at the ceiling and tear at your hair, swallow your feelings and stagger and swear. You can show things and throw things and I wouldn't care. You can cry if you want to. I won't make fun of you, I won't tell anyone. I won't analyze what you do or you should have done. I won't advise you to go and have fun. You can cry if you want to. Well, it's and ugly and terribly sad. I can't feel what you feel, but I know it feels bad. I know that it's real and it makes you so mad. You could cry. Cry if you want to. I won't tell you not to. I won't try to cheer you up. I'll just be here if you want me to be near.
On vient d'entendre Holy Coal et la pièce Cry If You Want To.
Merci Jean-Sébastien. Alors nous poursuivons avec quelques brèves. Vous êtes prêts?
Oui.
Allez, le premier qui se lance.
Roger.
Oui, j'y vais. Je vais donner un down. Ouais.
Ah oui?
Oui, oh. Aux joueurs de Scrabble.
Ah.
Oui, c'est ça. Ça va les déprimer. Déjà triple champion anglophone de Scrabble, un Néo-Zélandais de 51 ans a remporté 4 prix au 47e championnat du monde de Scrabble francophone qui se sont tenus à Mont-Tremblant en juillet 2018. Pendant 300 coups consécutifs, Nigel Richards a joué le meilleur mot possible égalant les choix de l'ordinateur. Et dire que ce prodige ne parle pas le français. Ça déprime un peu, hein?
Ah! Alors, le vinaigre de Cid, est-ce qu'il aide à perdre du poids, oui ou non? Le vinaigre de cidre,
ah oui?
On lui prête beaucoup, beaucoup de qualités. Hein? Ben, selon la croyance, ce liquide ferait fondre le gras abdominal et agirait comme coupe-faim. Et pendant 3 mois, à raison de 2 fois par jour, des chercheurs japonais ont fait boire à un petit groupe de 155 personnes en surpoids une boisson contenant du vinaigre de cidre. Résultat, les sujets ont perdu en moyenne 1 kilo au terme de ces 12 semaines. Rien de bien concluant. Donc, puisque l'étude est insuffisante et qu'elle a été menée sur 155 personnes seulement, c'est faux.
Ils ont sûrement perdu le goût de manger aussi.
Oh, du vinaigre de cidre.
Roger, 30 secondes pour une petite dernière.
Ah, le City Tree, c'est une création allemande. Green City Solution est un banc agrémenté d'un jardin vertical capable de purifier l'air. Composé d'un mélange de mousse, de plantes et de panneaux solaires, le mur filtre les poussières, le dioxyde d'azote et les particules de gaz. Les City Trees ont déjà séduit 12 de villes européennes.
Et voilà ce qui met fin à notre émission Les Voix de service pour ce lundi 12 novembre. Merci Roger, Jean-Charles et Serge. Et on se revoit la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.